en post-doc au Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak. Et qui propose un regard voilà, sur la compréhension des techniques de production en Égypte ancienne par l'observation du cas de l'atelier de Zir en région thébaine.
Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc on a vu jusqu'à maintenant des cas d'études, généralement très complets, à travers plusieurs ateliers du Maroc. Pascal Ballet a présenté ce matin plusieurs ateliers égyptiens. Moi, j'ai juste commencé, en fait, et je suis juste parti d'un cas, un atelier de Zir dans la région thébaine. Le début en fait, de mon questionnement est venu d'un article de David Klotz, paru en 2013, à travers l'étude d'une inscription en fait, qui était dans le temple de Louxor, une inscription de Ramsès II, sur laquelle on voit donc, cette représentation ici. Il en a déduit que l'introduction du tour à pied, qui est un outil majeur dans la production des céramiques égyptiennes, antiques et contemporaines, comme partout dans le monde ailleurs, l'introduction de ce tour à pied pouvait être datée de la fin du Nouvel Empire. Il conforte en cela une hypothèse produite par Colin Hope à partir de l'étude d'un mobilier du Nouvel Empire, mais qui, faute de preuves suffisantes, n'a pas été forcément reprise. On pensait en effet que le tour à pied était introduit beaucoup plus tardivement et que sa première représentation, qui signalait donc que l'outil faisait partie du quotidien des Égyptiens, était celle du temple d'Ibis, datée de la 27e dynastie, vers 500 avant notre ère. Une inscription sensiblement plus ancienne, de la 26e dynastie, pouvait également illustrer un tour à pied, mais ceci n'a aucune incidence sur notre propos. Ce qui a suscité mon interrogation, en fait, c'est qu'une seule représentation pouvait faire reculer de près de 8 siècles l'introduction d'un outil. En conclusion à son étude, David Klotz soumettait une sorte de défi aux céramologues en leur proposant de revoir un peu leur théorie. Je me suis donc demandé comment on pouvait vérifier son hypothèse à partir du mobilier archéologique. En réalité, on ne peut pas. Armand Desbal l'a récemment montré, enfin l'a montré tout à l'heure. Ce n'est pas l'outil qui peut être diagnostiqué à partir du matériel archéologique, mais c'est plutôt la technique qui est employée. On peut en effet utiliser un tour à main pour réellement tourner la céramique, comme on peut utiliser un tour à pied comme un tour lent. Donc si on peut dissocier l'outil de la méthode utilisée, c'est-à-dire la manière de tourner, on peut s'interroger sur les différentes manières, les différentes méthodes de façonnage employant le tour. On peut par exemple reconnaître si une céramique est tournée par la reconnaissance de critères, des stries caractéristiques sur la surface interne des parois des vaisselles, la régularité des parois, la symétrie des pots ou la présence de spirales au fond des céramiques. On distingue en effet deux pratiques différentes. L'une, c'est l'association par superposition de colombins qui est ensuite tournée, le tour intervenant à différents stades du processus, ou le façonnage par pression continue, ce qu'on appelle réellement la céramique tournée. Dans un cas, et celui-ci a été décomposé à différentes reprises, notamment par Valentine Roux, c'est la céramique est montée par superposition de colombins, alors que dans l'autre cas, c'est vraiment la pression des doigts de part et d'autre de la paroi, associée à l'énergie rotative, qui permet de monter la céramique. Ces études-là ont montré aussi que les traces en surface des céramiques, notamment, et aussi dans les tranches, n'étaient pas forcément les mêmes, en fonction de la technique employée. On dispose de différents référentiels, notamment à partir d'un matériel en Syrie, en France aussi, au néolithique. Mais ce matériel-là, enfin ces référentiels-là, n'ont pas été adaptés forcément à l'argile du Nil, aux techniques qui sont en usage dans l'Égypte ancienne. Donc, afin de un peu combler cette lacune, parce que les différentes recherches ethnographiques qui ont été menées n'ont pas pris en compte le produit fini. Elles ont documenté vraiment la manière de faire de tous les potiers actuels, sans étudier le produit fini de manière comme on étudierait en fait une céramique antique. Donc j'ai un peu pris l'approche qui a été notamment citée ce matin, c'est-à-dire documenter la manière de produire toute la chaîne opératoire Et après, je me suis tourné vers les produits finis en les acquérant et en les documentant de manière archéologique. Dans le cadre de cette approche, je me suis tourné vers un atelier de Zir dans la région de Thébaine. Le Zir est une jarre assez grossière qui est couramment utilisée dans les pays arabes et au nord de l'Afrique pour le stockage de l'eau. On en trouve dans les rues, dans les cours des maisons. Elles sont généralement disposées, là vous le voyez sur ces deux images, elles sont couvertes. Il y a des seaux qui sont disposés en dessous parce que ces céramiques sont extrêmement poreuses. Donc elles peuvent aussi servir de filtre à eau, c'est comme ça aussi qu'on s'en sert à Sedinga, notamment pour filtrer l'eau du Nil. Généralement cet usage tend à disparaître maintenant. Et la porosité de la vaisselle fait aussi que le contenu, donc c'est-à-dire l'eau, qui est à l'intérieur reste toujours fraîche. C'était intéressant pour moi de commencer par cet atelier-là parce qu'il employait une matière première qui est courante dans toutes les céramiques de l'Antiquité, c'est-à-dire l'argile du Nil, le limon. La forme aussi et la fonction renvoient à une tradition très ancienne, c'est-à-dire qu'on appelle zir beaucoup de céramiques antiques sans forcément qu'elles aient un lien, au moins typologique ou même fonctionnel, avec les zirs d'aujourd'hui. Certains chercheurs prêtent aussi des fonctions de stockage de solides, par exemple, pour les céramiques qu'ils appellent zir dans l'Antiquité. Ensuite, les méthodes de production de cet atelier, c'est-à-dire qu'il n'avait pas l'électricité, il fonctionnait réellement comme on pouvait estimer que les autres ateliers fonctionnaient dans l'Antiquité. On a déjà fait l'éloge de tous les apports en fait, que peut avoir ce type d'étude, donc je ne vais pas m'étendre dessus. On va vraiment travailler sur la transmission des techniques, sur comment on peut reconnaître parmi les céramiques archéologiques des phénomènes que l'on observe parmi les potiers modernes. Le fait d'étudier aussi un zir dans la région de Louxor, cet atelier, c'était aussi renvoyé aux études menées par Philippe Brissot dans les années 70. C'était reprendre une partie de sa documentation et comparer notamment l'évolution de ces ateliers-là à l'époque moderne, alors que déjà dans les années 70, ils étaient menacés. Alors, je vais vous parler plutôt maintenant de l'atelier. Donc, on a vu qu'il était situé dans la région de Louxor. On a dressé un rapide plan en fait, de l'organisation de cet espace-là. Donc, l'atelier est situé en bordure d'un canal. Et c'est vraiment l'accès à l'eau qui a guidé le choix de l'implantation de cet atelier-là. Il a été installé très récemment, il y a 3 ans. Auparavant, le potier l'avait installé chez lui, mais parce qu'il perturbait ses activités domestiques, en fait, il a décidé d'acquérir un autre terrain pour pouvoir s'y implanter. L'atelier s'étend sur une surface d'environ 3000 m². Et il est bordé donc par une route que l'on voit ici et juste de l'autre côté de la route, le canal. Alors ensuite, la répartition un petit peu des espaces se fait ainsi. On a la réserve d'argile, qui est brute, qui est déchargée par camion. Ce ne sont pas les potiers qui se procurent directement l'argile, mais ils l'achètent auprès de personnes qui sont spécialisées. Ils vont la collecter dans les canaux ou dans les champs environnants, et ils la vendent ensuite aux potiers. Important aussi un espace de repos, vu qu'il travaille ici toute la journée, qu'il n'y a pas vraiment de confort au sein de l'atelier. Ils ont juste aménagé une petite banquette sur la bordure est de l'atelier. Ensuite, sur le bord de la route, on a la zone où est conservée la cendre. La cendre, en fait, provient du four de cuisson de la céramique et aussi de quelques particuliers. Ils l'achètent notamment auprès des boulangers. Ici, nous avons le bassin où est conservée l'argile en cours de préparation, c'est-à-dire que le mélange de l'argile à l'endroit où elle est humidifiée et de la cendre se fait dans ce petit bassin-là. Elle est conservée sur une très brève période de temps, à peine une semaine. Hein. Et on peut difficilement appeler ça du pourrissage, puisqu'ils font directement le mélange et ils s'en servent aussitôt. Après, ce qui reste, c'est du reliquat qui est utilisé par la suite. Dans cette zone ici, on a environ, ça correspond à peu près 1 mètre cube d'argile, c'est l'argile qui va être employée dans la journée. Donc elle est prête et les potiers qui sont ici exactement, ici c'est la zone des tours, s'en servent directement, ils se servent dans cette zone-là. On a une zone de marchage juste ici aussi, qui permet vraiment de préparer les dernières choses. Donc les tours de potier, ils sont au nombre de 3, chacun séparé par une zone en fait où c'est un auxiliaire du tourneur qui va préparer les colombins d'argile. Les potiers sont au nombre de 2, ceux qui savent tourner en tout cas. Le troisième tour sert simplement en cas de défaut sur un des tours principaux ou pour former un apprenti. On a ensuite une zone où les pots sont mis à sécher après l'étape 1, c'est-à-dire que les irs sont produits en 3 phases. Donc il y a 24 heures de temps de séchage entre chaque phase. Et on verra que la disposition de chaque pot après chaque étape, en fait, est due au taux d'ensoleillement. Ici, on est sous un abri couvert par un toit de palme. Donc les pots qui sont mis à sécher après l'étape 1 sèchent très peu, comparé à ceux après l'étape 2, où là, ils reçoivent le soleil une grande partie de la journée, et à l'étape 3, où là, on les met au séchage jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour la cuisson, en fait. On a aussi une zone où c'est le combustible pour la cuisson qui est stocké. C'est de la paille hachée de Molokhaya, c'est-à-dire c'est une plante commune qui est séchée et hachée. Ensuite, ici, nous avons les pots qui ont été cuits, donc qui sont destinés à la vente. Les pots, en fait, ne sont pas vendus directement par les potiers, mais ils font appel à un grossiste qui diffuse ensuite la production. Cette production-là, sachant que c'est un petit atelier, est diffusée quand même sur environ toute la Haute Égypte. Donc environ d'Assouan jusque... Donc Assouan, ça va être vers ici, jusque en Moyenne Égypte. Donc on va voir des pots des irs de cet atelier jusqu'à ici apparemment. Et enfin, le four qui est situé en bordure ouest de l'atelier. En fait, on se rend compte que chaque mètre carré de terrain de cette concession est exploité et a consacré un emploi bien spécifique. L'organisation de l'espace obéit à des nécessités pratiques. Elle limite les déplacements au strict minimum et tient compte des contraintes liées au façonnage des irs en 3 étapes, ainsi que de l'indispensable temps de séchage entre chaque reprise. L'organisation de la production est également intéressante. Ce sont les membres d'une même famille qui se répartissent les tâches liées au fonctionnement de l'atelier. Ils sont placés sous l'autorité du maître potier, qui est en fait le frère aîné de 3 autres assistants potiers. 2 autres sont ses cousins, et un autre, l'apprenti, est un de ses neveux. Chacun occupe une fonction qui est transmise par ses parents. Notamment, le maître potier a hérité de la charge de son père, qu'il l'avait apparemment reçue depuis 6 générations à peu près. Donc cet atelier, enfin en tout cas cette famille, produit la même forme de zir, exactement, à ce qu'ils nous ont dit en tout cas, depuis 6 générations. Il a son plus jeune frère comme tourneur, c'est-à-dire c'est celui qu'on voit ici. Celui-ci a fait d'abord des études avant de rejoindre l'atelier de potier. Il a été formé par son frère aîné. Ensuite, donc, c'est une fratrie de 4 personnes. Les 2 autres frères s'occupent ici, sont vraiment les auxiliaires du potier, c'est-à-dire ce sont eux qui préparent les colombins d'argile pour le transmettre directement au potier qui est installé sur son tour. Et les cousins, par contre, eux s'occupent du mélange d'argile. Donc on les voit ici, ce sont eux qui tamisent la cendre, font le mélange et font le marchage ici. Après, à ce qu'ils nous ont dit aussi, on n'a pas pu assister à la cuisson, mais la cuisson est une affaire du groupe en fait. Chacun peut s'en charger en fonction des besoins et des contraintes liées au façonnage. On va maintenant aborder l'ensemble du processus de fabrication, en commençant par la matière première, qui est donc une argile limoneuse, qui est prélevée dans les champs ou dans les canaux environnants. Il la stocke à l'air libre, donc là on voit ici, c'est vraiment un amas qui correspond à plusieurs semaines de travail. À l'état brut, l'argile présente un aspect assez homogène dans les tons brun foncé. Séchée, elle forme des agglomérats, plus ou moins grossiers. Et le travail donc des préparateurs est de l'humidifier, cette argileuse, et de la débarrasser de ses inclusions les plus grossières. En la pétrissant manuellement, en fait, on les voit, ils ont un bloc assez humide et ils piquent petit à petit dedans et ils arrivent à à enlever toutes les inclusions, en tout cas qu'ils ne veulent pas voir dans les pots. Ils incorporent aussi à l'argile les pots non cuits qui ont présenté des défauts lors du séchage. Donc ça, ils les réduisent, ils les tamisent et ensuite ils les incorporent à cette argile. Le dégraissant qu'ils utilisent est la cendre. C'était intéressant de voir tout à l'heure l'intervention de Pascal Ballet pour définir l'apport de la cendre, enfin les propriétés mécaniques et physiques de la cendre. J'ai eu deux histoires différentes à ce niveau-là. La première, c'est que c'est ce qu'ont raconté ces potiers-là, c'est que la cendre est un produit pur par rapport à la bouse séchée qu'ils qualifient d'impure et donc qui est impropre à tout ce qui intervient dans la consommation, que ce soit du stockage de l'eau ou stockage des denrées. Nessim Enaim aussi racontait que c'était pour accroître la porosité de la vaisselle, ce qui notamment est très important pour la fonction d'usure. Ce qui m'a intéressé dans ces histoires, c'est qu'on a ajouté une croyance, le côté pur, impur, pour justifier un choix qui est en fait un choix pratique et pragmatique. Donc, oui, ici on voit très bien le mélange et le marchage. Donc, la pâte qui est préparée, elle ne repose pas plus de 24 heures. Une masse correspondante au travail du lendemain, en fait, est formée. Ici exactement. Et par contre, oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mélange d'argile peut séjourner plusieurs jours dans la fosse. Mais apparemment, ce n'était pas quelque chose qui était systématique. Après, je vous préviens aussi que nous n'avons fait qu'une intervention auprès de cet atelier, c'est-à-dire que nous n'avons pas pu vérifier, revérifier encore nos informations en leur posant exactement les mêmes questions à plusieurs jours d'intervalle. Ce qui fait que là, je vous livre un témoignage qui peut être erroné sous certains égards et qui nous demandera d'être vérifié par la suite. À cette étape-là de la chaîne opératoire, le cousin donc, qui prépare les masses d'argile transmet à l'auxiliaire du potier une masse que celui-ci façonne. Donc il utilise encore de la cendre là comme antiadhésif en fait, pour pouvoir mieux travailler le colombin avant de la transmettre au potier. Donc je vous ai dit que le façonnage d'un zir, enfin de cela en tout cas, s'effectue en trois étapes. Le support que l'on voit ici sur lequel est placé le zir lors de la première étape, c'est un pot en terre cuite qui permet simplement de rehausser et d'adapter en fait la hauteur de la forme à produire selon son étape de façonnage. On verra tout à l'heure que cela varie. Donc en premier lieu, on fonctionne comme une céramique tournée conventionnelle, c'est-à-dire tout d'abord on centre la masse d'argile, ensuite on va commencer à la creuser. Et là, on va commencer en fait par façonner le fond, la tête en haut. C'est-à-dire qu'à partir d'une forme qui est plutôt évasée, avec son pouce, et je vous montrerai une vidéo tout à l'heure où on le voit plus clairement, on va fermer la forme, mais on va utiliser qu'une seule partie de la masse d'argile. Le reste ici reste plein en fait. À la fin de cette étape-là, le potier a pratiqué un petit trou ici que l'on voit. Pour faciliter le séchage de la forme pendant 24 heures, il l'a entouré d'une petite corde et il a pratiqué aussi trois trous à la base en sortant le zir de son support pour qu'il puisse encore mieux sécher. La deuxième étape, donc là, il reprend le zir en position normale, en fait, donc fond vers le bas. On voit ici qu'il a enlevé le vase en terre cuite. Donc derrière la tête d'argile est creuse, il rajoute un colombin qu'il va complètement façonner pour accueillir et vraiment épouser la forme du zir. Alors à cette étape-là, moi ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'ils utilisent de la bouse séchée pour comme antiadhésif, c'est-à-dire que bien qu'ils répugnent à l'employer dans la conception du zir, ils l'utilisent comme antiadhésif, ce qui fait qu'elle rentre quand même si en très faible quantité, dans la fabrication. Donc à cette étape-là, on voit qu'il va commencer déjà par enlever le surplus de matière. Ici. Il ne marche pas très bien. Voilà. Il va enlever le surplus de matière en surface et il va commencer à creuser jusqu'à atteindre la zone qu'il avait évidée au préalable. et il va quasiment pas enlever de matière, c'est-à-dire qu'il va employer toute la matière qui reste pour monter les parois, et arriver ainsi à une forme où il va replier un petit peu, infléchir les parois du zir. Et ici, on va garder le diamètre maximum, le diamètre maximal qui sera celui au final, qu'il va entourer de cordes, toujours. Il va aussi affiner un petit peu les parois à l'aide de sept outils de bois. Il a deux lamelles de bois, en fait, qu'on appelle estec. Il y en a une qui est plus courte que l'autre. Et à cette étape-là, il se sert de la plus courte, qui est celle-ci. Enfin, la dernière étape, c'est celle où maintenant, avant on était vraiment sur la céramique tournée, et là on passe sur du colombin autour. Alors les colombins sont quand même assez gros. Il en pose un, alors il tourne normalement dans ce sens-là, sauf que pour le colombin, il le place en sens inverse de son sens de rotation habituel. Donc il place le premier, ensuite il monte la paroi, il l'affine, il monte là jusqu'aux deux tiers de sa hauteur, et il ajoute le dernier colombin pour finalement finir le bord. Et il finit donc avec les steaks qui étaient la plus grande que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, donc là, tous ces pots sont disposés ici en attente de séchage. Donc maintenant, après avoir détaillé le processus de fabrication, et j'ai encore quand même oublié qu'on allait aborder la cuisson. Donc le four, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un four qui fait 4 mètres de diamètre. Il est de type four vertical, tel que l'avait défini Philippe Brisseau, c'est-à-dire qu'on a l'entrée ici du foyer, la sole est en damier, on la voit ici, elle est soutenue par un système de voûte. À l'intérieur, lors de la cuisson, on va poser les zirs en rayonnant. D'abord, on va commencer par les parois externes du four, puis on va disposer les autres, et on va les empiler tête bêche jusqu'à 6 rangées, pour finir comme on peut, en fait, en les disposant à l'horizontale jusqu'à remplir complètement le four. D'après eux, on rentrait environ 200 zirs, soit c'est le travail à peu près d'une semaine, en fait. Et cuiser, la cuisson peut varier de 6 à 8 heures en été et de 12 heures en hiver. Et ensuite, la post-cuisson, durant la post-cuisson, le four reste couvert. Et il le laisse comme ça pendant une journée avant de l'enlever complètement. Maintenant, nous allons observer les produits finis, c'est-à-dire qu'à la fin, après les avoir visités, on a pu acheter 3 zirs, 2 cuits et 1 non cuit. Et on a pu les étudier comme si c'était une céramique archéologique qu'on avait trouvée. Donc ça nous a permis vraiment de nous poser les questions et de voir un petit peu, par rapport à ce que moi je vois à Carnac régulièrement, les choses. Enfin, c'est simplement des pistes de réflexion ou des questions qu'on se pose quand on peut voir les résultats que cette chaîne opératoire permet de produire. Donc déjà, on a vu que c'était une. Enfin, c'est une production à la chaîne, donc ça se remarque aussi parmi les pots. Ils font tous 66 cm de haut, peu importe le zir cuit, les deux zirs cuits et le zir non cuit. Leur diamètre d'ouverture varie entre 27 et 29 cm. Ils sont deux à tourner, donc on peut imaginer que certaines variations, même infimes que nous on regardera, sont à mettre sur le compte de l'un ou l'autre potier. Apparemment, les deux nous disaient qu'ils étaient capables de reconnaître très bien leur production. Ensuite, on va voir un petit peu l'évolution des profils. Ça, je les détaillerai tout à l'heure. On va voir ici que le façonnage en 3 étapes, en fait, laisse quelques marques, notamment des variations dans l'épaisseur. On verra tout à l'heure ce qu'il en est. Alors on a commencé par comparer un échantillon non cuit et après cuisson. Ça permet de révéler en fait le comportement de l'argile après le passage au four. Donc je vous décris très brièvement ce qu'on a pu repérer. C'est la section présente avant cuisson une teinte dans les brins clairs, où en fait on s'est rendu compte que c'est la cendre qui apporte la plupart des inclusions contenues dans la pâte, hormis quelques minéraux grossiers. On note quelques inclusions végétales plus ou moins carbonisées, des nodules rouges, des charbons de granulométrie moyenne, quelques grains de calcaire décomposés, des quartz à la fois anguleux et arrondis, des minéraux gris en quantité à peu près comparable. Après cuisson, on observe une teinte homogène rouge foncé, contenant des nodules blancs fréquents voire abondants. On peut donc penser raisonnablement que c'est la cendre, en fait, qui, à la recuisson, permet d'obtenir ces nodules blancs. En tout cas, ce n'est pas du calcaire, bien que ça y ressemble fortement. Au début, quand on a regardé la tranche de cette céramique, on s'est dit, tiens, c'est des nodules de calcaire qu'on ne voyait pas avant. On a fait un test à l'acide citrique et en fait, non, ce n'est pas du calcaire. Donc on se demandait si c'était par hasard de la cendre. Les nodules rouges qu'on voyait très bien quand l'argile était brune, là, ont complètement disparu. Les négatifs végétaux n'apparaissent pas plus sur l'argile cuite que non cuite. Et c'est à peu près tout ce qu'on a pu voir à travers une observation simplement macroscopique. Alors la question que ça nous est soulevée, c'était sur l'utilisation de la cendre dans l'Antiquité. On a vu, lors de l'intervention de Pascal Ballet, quand elle pouvait être marquée par des taux élevés de sodium et de potassium, il me semble. Mais c'est vrai que dans toutes les descriptions de pâtes que l'on peut avoir en Égypte ancienne, il est très très rarement mentionné ou fait état de cendres. Enfin, c'est une question à se poser raisonnablement. Après, c'est trouver les moyens de la détecter, notamment en définissant ce qui est calcaire ou ce qui ne l'est pas, parce qu'on ne fait pas d'analyse systématique sur les céramiques. On a vu déjà les difficultés que c'est en Égypte pour analyser les céramiques. Donc voilà, ça fait partie des domaines qu'il faudra. Enfin, ça fait partie des questionnements que je me suis posé, en tout cas en voyant ces échantillons. Ensuite, on a travaillé sur le façonnage. Donc là, je vous repasse une courte vidéo où on va voir en boucle en fait la finition du fond, qui est simplement réalisée avec le pouce, avec une haute pression de la main droite pour resserrer. Donc on voit en fait que c'est la trace qui en laisse, c'est simplement une spirale qui est assez profonde et la surface interne qui est pratiquement lisse. Il n'a pas de doigt, il n'y a pas de pression réellement sur l'argile. Donc après, en triant du matériel, là, c'est sur un assemblage de la 25e dynastie, je me suis retrouvé confronté à ces deux fonds. Il y en a un qui est en pâte alluviale et qui présente des traces qu'on pourrait assimiler. Vraiment, là, on pourrait assimiler. En tout cas, la surface interne est lisse, une spirale est assez profonde, et on peut l'opposer largement à cette jarre ici qui est en pâte marneuse, où là vraiment on a des stries qui sont assez profondes, comme si en fait on avait fait pression sur la masse d'argile pour la remonter. Donc comme si par exemple le fond avait été travaillé basse vers le bas, ici, alors qu'ici on avait travaillé basse vers le haut. Le fait de s'intéresser à ces assemblages ici durant cette période sont assez importants puisque en fait c'est à la 25e dynastie que vraiment dans la région thébaine les productions en pâte marneuse prennent leur essor et sont considérablement, elles comptent après pour 40% du matériel environ. Et c'est vraiment à cette période clé là qu'il va falloir faire attention par la suite, en tout cas que je vais faire attention par la suite pour essayer de retrouver ces différents gestes. On va passer ensuite à l'étape 2. Ah, faut que j'aille doucement. Voilà, à l'étape 2. Donc on a vu que le potier reprenait la forme évidée, qu'il travaillait maintenant le fond vers le bas, qu'il n'y avait pas d'ajout de matière, qu'elle était déjà contenue en fait dans le morceau qu'il reprenait. Et les traces qu'on a pu voir en surface, par exemple, c'était les traces d'enchâssement du mandrin. On voit ici qu'il travaille avec les steaks, donc pour lisser les parois, la partie qui n'est pas lissée, qui va le rester jusqu'au bout, ce sont ces traces-là. Donc ça, c'est des traces d'arrachant de matière ou, qui sont dues à la position du zir sur le tour. Sur la face interne, on voit rien d'autre que des traces de tournage. On peut simplement diagnostiquer seulement sur le zir non cuit. Sur l'autre, on ne le voit vraiment pas. Une augmentation de l'épaisseur, mais elle peut être confondue avec un colombin, par exemple. Donc on en tire vraiment peu d'informations, à ce niveau-là en tout cas. Ce qui m'a intéressé ici, et on en a aussi parlé ce matin, c'était les traces de cordes. Les traces de cordes, on les voit, elles sont présentes quasiment de bout en bout de la chaîne opératoire. Elles servent vraiment à maintenir le zir. Donc Pascal Ballet l'a dit ce matin, c'est une contrainte technique. Ce qui m'a intéressé, c'est à partir de quand cette contrainte technique a nécessité l'emploi des cordes. Ici, on voit, ce sont les mêmes potiers qui fabriquent devant nous des cordes. En fait, ils vont au bord du canal, ils prennent des herbes qu'ils font sécher. Ensuite, ils les tressent, ils les font bouillir pour qu'elles acquièrent un peu de souplesse. Ils les refont sécher et c'est bon, ils ont leurs cordes. Donc, ils les fabriquent à la chaîne. En recherchant un petit peu dans la bibliographie, les traces de cordes, j'en ai retrouvé jusqu'au Nagada 2, soit moins 3500 avant Jésus-Christ, soit aussi à la même période, supposée en tout cas de l'introduction du tour à main, en Égypte. Donc oui, la recherche ethnographique montre qu'elle correspond évidemment à une contrainte technique. C'est aussi, à ce que j'ai pu en lire, un marqueur du séchage du zir, c'est-à-dire que ces cordes se détachent du fait du retrait de la matière au séchage, et apparemment ça indiquerait au potier qu'il est temps de cuire et de passer cette céramique-là au four. Après, en se posant un peu plus de questions et en regardant le matériel archéologique, on se rend compte que ce sont toujours des pièces épaisses, avec des parois épaisses, pas forcément de gros volume, hein, mais toujours des parois épaisses, qui possèdent ces traces de cordes. On voit ici, là, ça c'est une assiette découverte dans un niveau ptolémaïque. Elle est faite en argile alluviale. Si à l'état, même à consistance cuir, on n'avait pas mis ces cordes pour la soutenir, les parois se seraient effondrées. Mon deuxième exemple, c'est une amphore ptolémaïque qui est dérivée des prototypes grecs. Et ce qui est intéressant, c'est que s'ils ont essayé de reprendre la forme au début, ils ont tout de même adapté avec les techniques qu'ils connaissaient. D'où en fait la présence de cordes sur ces céramiques. Ma dernière photo est celle d'un potier nubien. C'est-à-dire ce qui m'a aussi fait questionner sur la transmission de ces techniques-là. Quand on regarde au Soudan, à l'époque, aux époques les plus reculées, en fait, on ne commence pas, le tour est introduit au Soudan, au Nouvel Empire. Jusqu'à présent, on faisait de la céramique non tournée. Et encore, les céramiques tournées qu'on trouve au Nouvel Empire, au Soudan, sont des productions qui sont typiquement égyptiennes, sur lesquelles, évidemment, on retrouve des traces de cordes. Ensuite, bon, après, on connaît un petit peu moins le matériel pour les époques suivantes, jusqu'à l'époque, l'équivalent de la période gréco-romaine, qui est l'époque méroïtique. Là, on n'a pas suffisamment de données pour essayer de trouver des traces de cordes ou quoi. Mais moi, sur la céramique méroïtique, j'en ai jamais vu. Et pourtant, les formes qu'ils produisent sont à peu près semblables à ce qu'on peut trouver en Égypte. Les techniques de façonnage, on repère bien les colombins. Après, là, on voit sur cet atelier actuel, ils fabriquent un zir. Alors, selon une méthode qui est finalement assez proche de celle qu'on a vu à Ballas, c'est-à-dire c'est une superposition de colombins. Par contre, les colombins sont beaucoup plus petits, on le voit ici. Et il maintient sa céramique avec des bandes de tissu et non pas avec des cordes. Donc après, là, pourquoi et quand est apparue et quand a disparu cette technique, j'en ai pour l'instant aucune idée. On va passer à l'étape 3, donc, qui est celui où interviennent les colombins. Alors on peut, là j'ai aussi, je me suis renseigné sur les référentiels qui existaient hein, pour essayer de revoir un petit peu ce qu'on pouvait repérer à partir de la présence des colombins sur les céramiques, sur les produits qu'on a ici. On a parfois un sillon un peu plus épais. On a cassé deux céramiques en fait, on en a gardé une intacte. Sur les deux, il y en a une qui a cassé au diamètre maximum, avec simplement un choc, on l'a laissé tomber, hein. La deuxième a cassé sur le joint, exactement sur le joint du colombin. Donc on peut, enfin c'est aussi pas moi qui le dis, il y a des cassures préférentielles suivant les joints de colombin. On peut avoir une augmentation notable de la paroi. Alors ce qui marche bien avec l'application du premier colombin, mais par contre pour le deuxième, on n'en voit rien du tout. Et ce qui nous a aussi gêné, c'est... Certains disent que dans la tranche, on observe un mouvement circulaire des inclusions. Quand on n'a que des inclusions rondes, ce qui est à peu près le cas ici, et il nous est impossible de voir un mouvement des inclusions, au moins à l'échelle macroscopique. Donc, ces questionnements-là, c'est pareil, ont peu été abordés en Égypte. On qualifie simplement les céramiques de céramiques tournées. On ne va pas dans le détail de travailler par le fond. On a commencé par le bord, est-ce qu'on voit des colombins ou pas? Donc ce sont des aspects de la recherche qu'on va essayer de développer par la suite. Ensuite, je vais vous parler des produits finis, donc de la cuisson. Bon, là, c'est plus un jeu auquel je me suis livré. C'est que, bon, on a vu évidemment que les points de contact entre les céramiques pendant la cuisson occasionnaient des marques noires ou des marques rouges dues à l'absence d'oxygène, en fait, durant la cuisson. Donc, on a joué avec cette amphore-là, qui est quasiment complète, il manque que le fond. Où on a pu observer qu'il y avait des traces, donc des traces de points de contact entre les vaisselles au cours de la cuisson. On en a repéré, il y en avait trois au diamètre maximal à peu près, et trois en partie basse. Deux d'entre elles étaient vraiment à peu près alignées, à la même hauteur, en tout cas sur la vaisselle, et il y en avait une qui était toujours un petit peu décalée, une ici, et ici on la devine à peu près. On a pu aussi observer que la paroi, on le voit pas très bien ici, était enfoncée, ce qui veut dire que pendant la cuisson, il y avait une pression sur cette céramique-là. Donc, avec tous ces paramètres, en imaginant, en partant vraiment de trois postulats, c'est-à-dire que le premier, c'est on voulait optimiser l'espace pendant la cuisson, ce qui paraît assez logique. Le deuxième, c'est que cette amphore-là était entourée de ses congénères, en fait, qu'il n'y avait pas d'autre vaisselle qui était accolée à elle, ce qui nous semble à peu près logique étant donné que les marques sont assez régulières. On n'en a pas qui sont disposées à divers endroits incongrus. Et ensuite, qu'elle était posée en position verticale. Donc, sachant qu'elle était entourée de part et d'autre en partie basse et en partie haute, elle ne pouvait se situer entre deux rangées de céramique. Ensuite, c'est le topographe du centre, hein, qui est un peu mathématicien à ses heures, qui a calculé toutes les tangentes et les possibilités. Il y a passé quelques heures. Il a donc pu calculer que si les deux jarres qui étaient sur un plan strictement horizontal, la troisième ici ne pouvait être que de biais. C'est ce qui matérialise en fait les écarts qu'on voit ici. Et que les autres étaient disposés tête-bêche. À peu près à des hauteurs différentes. Il n'a pas voulu pousser un peu plus son calcul parce qu'après on arrive à des paramètres qui sont complètement ingérables. C'était vraiment simplement pour vous montrer qu'on peut essayer parfois d'utiliser ce qui peut ressortir. C'était les traces de cuisson. Je crois que j'ai été un petit peu rapide. Parce que j'arrive à la fin, je voulais vous remercier de votre attention. Et remercier aussi tous les membres de l'atelier de potier et tous ceux qui ont contribué à cette étude.